Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un enseignement de Madame Vanessa Benzaken. Bonne écoute et bon limoud.
Alors, mesdames, brochot abaot, je m'excuse du retard. Et nous avons commencé une étude il y a un mois sur un thème qui s'appelait « Apprendre à gérer nos émotions ». Vous étiez là ? La suite ? Yofi. Alors, on a parlé de différents concepts théoriques. Ça veut dire on a parlé et posé. On a dit que c'est Tnaï Echechi Rishon Bachinour, c'est une des conditions premières de l'éducation, qu'on peut apprendre tellement de choses intéressantes et tellement de techniques et tellement d'approches et tellement d'intelligence éducative, mais que s'il n'y a pas ce préambule indispensable qui est apprendre à se gérer, apprendre à gérer nos émotions à nous, alors il y aura plein de belles choses éducatives, etc. Puis de temps en temps, alors, ça embrouille un peu l'enfant. On est des êtres humains, donc il peut y avoir des inconsistances, il peut y avoir des aliyah ve'irida, sina ve'yeme, sina ve'yeme ava, c'est tout ça est normal, d'accord ? Mais on va essayer de comprendre que ici se joue la pierre angulaire de la relation éducative avec l'enfant. C'est-à-dire que essayer, travailler pour offrir à l'enfant un exemple plus stable au niveau de la relation. Donc aujourd'hui, ça va s'appeler enrichir la qualité relationnelle. C'est la suite de apprendre à gérer nos émotions. Et de la même façon que la dernière fois, on a évoqué des concepts théoriques sans rentrer dans des exemples. On a dit que la première gestion de nos émotions, c'est à travers le dibour. Qu'est-ce qu'on a dit? Pia patra bechokhma, vous vous rappelez? Pia patra bechokhma, c'est-à-dire elle sait quand elle ouvre la bouche et comment elle parle. Quand elle parle et comment elle parle. C'est son raffinement particulier, c'est qu'elle ne dit pas tout ce qui lui passe par la tête. Et donc elle apprend à avoir cette distance. Me vient une idée à dire. Sûrement vous l'avez déjà vu, mais c'est une satisfaction extraordinaire quand quelque chose vient comme une pulsion, on veut dire quelque chose et hop, on se retient. C'est une mechoubadout, c'est une dignité, c'est un kavod d'atsmi extraordinaire. Il ne faut pas chercher à avoir le kavod d'atsmi par 36 sources extérieures, on l'a en nous, en se comportant de manière plus réfrénée quand il faut savoir se taire, apprendre vraiment à se taire. Ça nous donne vraiment cette argacha shel mechoubadout, cette sensation agréable de dignité. Et pour l'enfant, c'est extrêmement indispensable, parce qu'on a dit qu'en fait, c'était pas... Beaucoup de gens se leurrent en pensant, mais ce que je dis est vrai, ce que je dis est justifié, c'est même écrit dans le livre, dans les psukim. Alors ici, on avait fait cette distinction de dire ce qui est important, c'est pas ce que je dis, c'est pas la pertinence de ce que je dis à l'enfant, c'est mon état émotionnel au moment où je m'adresse à lui. Vous vous souvenez de tout ça, oui? Voilà. Donc maintenant, pour ce cours-ci, eh bien, puisqu'on a parlé de tellement de concepts très jolis, théoriques, alors je vous ai apporté ce que le Rav avait préparé dans cette conférence extraordinaire, qui sont des exemples concrets, des anecdotes concrètes que le Rav a ramenées, qu'on a traduit, et qui vont en fait illustrer un concept qui s'appelle directive et pas reproche. Vous vous souvenez qu'à la fin de notre développement la dernière fois, on a dit convertir les reproches en directives, puisqu'on a dit il faut bien driver l'enfant, il faut bien fonctionner avec lui quand il se comporte mal. Alors comment on fait? On avait dit, tu convertis, tu veux faire un reproche, au lieu de dire pourquoi tu fais comme ça, ne fais pas ça, ou fais ça, d'accord? Des directives neutres, parvées. Si tant est qu'on arrive à être parvées, mais disons il faut se rapprocher. Et c'est-à-dire neutraliser toute cette agitation émotionnelle. Quand elle est là, qu'est-ce qu'on a dit? On s'éloigne. On ne peut pas faire du chinuch en état d'agitation émotionnelle, ça sortira pratiquement toujours anti-chinuchi, anti-éducatif. Donc, on a ici deux histoires d'une simplicité, mais alors, on ne peut pas vous dire comme c'est simple, des choses triviales de tous les jours, oui, et on va voir comment des êtres travaillés ont géré ces situations anodines de tous les jours. Alors, il y en a une première que je vais faire rapidement, qui est courte, et une autre plus longue, que Ezrat Hashem dans le temps imparti, on va la commenter tout le long du cours, et ce sera le tochen de notre cours, Ezrat Hashem. Alors, la première histoire, donc, pour illustrer ce qu'on a dit, directive et pas reproche, c'est l'histoire que le Rav Yaakovson rapporte sur une rabbinite qui s'appelait la rabbinite Yaakovson, je ne sais pas si c'est la même famille, parce que lui c'est Yaakovson, et de Cracow, de Cracovie. Et c'est rapporté par une de ses élèves, une femme qui côtoyait cette rabbinite Jacobson. Et vous allez voir, dans un incident complètement banal, comment cette rabbinite Jacobson, qui était donc considérée comme une femme très raffinée, très mechoubedet, comment elle a réagi. Et de ça, on va essayer de retirer des enseignements pour nous, Bezrat Hashem. Alors, je vous lis tout simplement ce témoignage, ce premier témoignage. La rabbanite nous proposait régulièrement, à nous, ses jeunes voisines, de garder nos enfants en bas âge. Ce soir, c'est la comptine, je vous raconte des histoires. Chaque fois que nous étions obligés de sortir de chez nous, nous acceptions souvent sa proposition, d'une part parce qu'elle la présentait avec une joie manifeste, d'autre part parce que nous pensions que ce qui émanait d'elle pouvait avoir une influence favorable sur nos enfants. Donc cette rabbanite, ça déquête, elle fait babysitter gratuit, elle garde les enfants des voisines. Un jour, j'ai dû laisser chez elle mon plus jeune fils, ainsi que son frère aîné, qui avait alors environ 8 ans. Mes enfants furent plutôt turbulents, et la rabbanite s'adressa à eux à deux reprises au moins. Elle leur expliqua, en particulier aux plus grands, qu'une maison ne constitue pas un lieu idéal pour les jeux violents. C'est joliment dit, n'est-ce pas? Mais ces réflexions n'eurent aucun effet. Dès que la rabbanite reprenait ses activités, les enfants retournaient à leur agitation bruyante et désordonnée. Notez qu'au niveau mishmat, au niveau règles de discipline qu'on a appris ensemble avant, c'est complètement conforme. Elle panique pas parce qu'ils écoutent pas. Elle revient avec la même injonction, elle monte pas crescendo, elle ne se remet pas en question qu'elle sait pas faire de l'autorité quand ils désobéissent, elle est à l'aise avec tout ça. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. À un moment, mon aîné lança un objet en direction de son petit frère. L'objet heurta la porte vitrée de la grande bibliothèque qui se brisa. Il est facile d'imaginer à quel point l'enfant fut bouleversé et à quelle sorte de réaction il s'attendait de la part de la dame qui les gardait. La rabbanite pénétra dans le salon, puis voyant ce qui s'était passé, sortit de la pièce, quelle maîtrise, pour revenir avec un balai et une pelle, sans prononcer le moindre mot superflu. C'est pas tunisien, ça c'est sûr. C'est... Elle présenta à mon fils la pelle et le balai et l'aida à rassembler les débris dispersés. Regardez. Quel chorma inimaginable.
C'est à lui de...
Elle dit rien, elle lui amène la pelle et le balai, et elle l'aide. 100%. Une fois la tâche accomplie, elle reprit ses occupations et ne mentionna plus l'épisode en question. Même pas la moindre des allusions. Et moi-même n'en sus rien pendant longtemps. Elle raconte même pas la maman. Quelques temps après, je fus de nouveau obligée de laisser chez elle mes enfants. Cependant, je me rendis compte que, cette fois, mon aîné n'était pas spécialement heureux de se retrouver chez elle. Je n'avais pas d'autre choix ni l'opportunité d'explorer plus avant le problème. Et quand nous arrivâmes à sa porte, elle nous reçut comme à l'accoutumée avec chaleur et cordialité. Elle nous fit entrer. Après un échange de quelques mots, je m'apprêtais déjà à sortir quand elle se posta en face de mon fils aîné et s'adressant à lui déclara « Je suis très heureuse que tu aies venu toi aussi. Je sais que tu m'aideras à garder ton frère. Je sais aussi que tu es un grand et que tu as de l'expérience. » Et que tu sais que dans une maison, on s'amuse en faisant attention. Ce n'est qu'après avoir récupéré et les avoir ramenés chez moi que je pus mettre au clair avec eux ce qui se cachait derrière son intervention. C'est alors que j'appris enfin ce qui s'était passé. Ce qui émerge de ce récit, ce n'est pas seulement le conduit exemplaire de la rabbanite lors de ces deux épisodes, mais c'est surtout l'influence extraordinairement bénéfique qu'elle eut sur mon enfant. Longtemps après cet événement, chaque fois que je déclarais « tu es grand et expérimenté, je peux compter sur toi », il se comportait avec un sens des responsabilités, une maturité hors du commun. Une fois, il me déclara même « quand je serai grand, je ne me marierai qu'avec une rabbanite ». Il a raison. Sur moi aussi, cette histoire exerça une énorme influence. J'en reste profondément marquée. Jusqu'à ce jour, chaque fois que l'on mentionne le séminaire de Cracovie, donc, et que son souvenir est évoqué, les larmes en montent aux yeux, je pense à elle, à l'idée qu'elle se faisait de l'éducation juive, et à ce qui constitue aujourd'hui notre vie, et à ce que nous lui devons à jamais. Alors ça c'est un exemple, un premier exemple, je rentre en matière progressivement. Nous parlons donc d'une rabbanite, c'est pas encore chez nous, voilà, on parle de quelque chose, donc, on va s'approcher du centre maintenant. Donc le Rav, il commente sur ce témoignage, il dit comme ça, hein, posons-nous la question honnêtement. Qu'est-ce qui se passe chez nous quand il y a une chose comme ça? Alors, il dit, est-ce que les réactions impulsives et disproportionnées, je dis, on va rentrer dans le tachlès, là, aujourd'hui, c'est pas les grandes théories du livre, hein, à la suite d'incidents mineurs constituent un quelconque rimour? Il pose la question, il répond pas, hein, chacune va se faire sa réponse à elle. Il dit, la première réaction de l'enfant qui échoue, parce que pour lui c'est un échec, hein, quand il fait tomber un verre, quand il casse quelque chose, c'est pour lui un échec, c'est qu'il remet en question toute sa personne, toute sa faculté. Il dit, c'est une réaction qui n'est pas brillante, qui n'est pas saine, mais c'est comme ça que fonctionne l'enfant. Hakol okol. C'est globalisant, c'est tout ou rien. L'enfant ne connaît pas la nuance. C'est quand ils acquièrent après le date, au fil des années, ils acquièrent ce qui s'appelle la nuance. L'enfant ne connaît pas la nuance. C'est tzadik, veracha, tov, vera. Et si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a une bonne raison pour ça. Peut-être pour se construire, il a besoin de repères qui sont très manichéens et globalisés. D'accord ? Donc, quand il fait tomber quelque chose, ou qu'il fait une bêtise, ou qu'il fait une bêtise dans le sens une erreur, hein, d'accord ? Quand c'est comme ça, il remet en question toute sa faculté. Je suis un incapable. Nous, on ne le sait pas. On voit le verre qui est tombé, ou on voit la chose qui s'est cassée. Toute notre attention, elle est portée ici. On ne voit pas le visage de l'enfant. Moi, je me suis après entraînée à regarder. Et je vous assure qu'en regardant le visage de l'enfant, on n'a plus envie de rien dire. Ma'ashim et kola ishiut shelo, nous dit le Rav. C'est-à-dire, il s'accuse tout entier. Quand il fait une erreur, il échoue, c'est toute sa personne qui l'accuse. D'accord ? Et même si l'enfant, il sourit ou il rigole, il feint. Fin, F-E-I-N-T, c'est-à-dire il fait comme si il fait comme si qu'il est indifférent. Bon, c'est des réactions de protection. Maintenant, si à cela se rajoute de l'animosité, des reproches du parent, l'enfant se retrouve découragé et privé des outils pour être plus prudent la prochaine fois. C'est-à-dire que l'expérience n'a pas été formatrice. Là, je vous dis ça très vite, on va rentrer beaucoup plus en détail dans la prochaine histoire pour la même chose. Et alors, pourquoi cette expérience n'a pas été formatrice? Pourquoi l'enfant ne devient pas plus vigilant? Normalement, ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois, tu deviens plus vigilant, ouais. Il y en a certains qui disent aux enfants, tu as deux mains gauches. Chas v'chalila de dire une chose comme ça aux enfants. Pourquoi le cataloguer? Parce qu'après, Bémet, il va les avoir les deux mains gauches, ça peut vous le dire. À force de le répéter, on finit par créer la chose. Alors, pourquoi elle n'a pas été formatrice, l'expérience? Pourquoi il n'a pas appris de façon empirique de ce qui s'est passé? Il dit parce que l'expérience, elle a été tellement désagréable, s'il a reçu des cris et des reproches, ou pas, oui, que l'enfant va tout naturellement, inconsciemment, chercher à chasser tout l'événement. Le nefesh, il est fait comme ça, qu'il enregistre tout en bloc. Par exemple, il était dans un endroit, il y avait un certain parfum, il y avait une certaine ambiance, il y avait certains échanges de paroles qui se sont faits. Tout le nefesh, il enregistre tout en bloc, l'odeur, le truc et tout, par association. Ce qui fait que si un autre jour je sens ce même parfum, je vais repenser à cette conversation, je vais repenser automatiquement à ça, parce que dans le rangement qui est fait à l'intérieur, c'est rangé par catégorie et tout est pris, l'événement est pris en bloc, avec une multiplicité de détails qu'on ne peut même pas imaginer, le cerveau humain c'est quelque chose, une multiplicité de détails, de sensations, c'est inimaginable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Quand l'enfant il a fait une erreur, il a échoué, et qu'il se trouve couvert de reproches ou de cris ou d'animosité, on va dire, eh bien, même la leçon intéressante qu'il aurait pu retirer de l'événement se trouve chassée en même temps que les sensations désagréables. Parce que le nefesh ou doré, il repousse cet événement parce qu'il est trop désagréable. Parce que l'événement qui pouvait être intéressant au niveau apprentissage, il est trop associé à un sentiment d'humiliation, d'échec, très désagréable. Donc, c'est pour ça que dans ce genre d'interaction relationnelle avec l'enfant, la vigilance non seulement ne se développe pas, mais elle est freinée, entravée dans son cours naturel à cause de ce relationnel négatif. D'accord ? Ça, c'est pour ouvrir la réflexion. Hein. On va aller beaucoup plus en détail, Bezrat Hashem. Inversement, il nous dit, quand le processus d'apprentissage n'est pas court-circuité par les reproches et les remontrances, d'accord ? L'enfant acquiert plus d'adresse par essai-erreur. Et où est-ce qu'on voit ça? Ben c'est le cas du jeu. L'enfant qui joue, personne vient le critiquer comment il joue bien ou il joue mal. Baruch HaShem, j'espère que quand même là-bas il est tranquille. Il peut prendre ses Lego, monter une tour pendant 5, 7, 8 minutes, avec à mal, vraiment avec effort, et voir tout tomber. Alors des fois quand ils sont tout petits, ils font « ils sont pas contents », mais très vite, il se remet et il recommence, et très vite, il devient adroit. Capla, Lego, peu importe, tous les jeux. Très vite, il devient adroit. Pourquoi? Parce qu'il apprend par empirisme. Il essaye, ça marche pas. Son cerveau enregistre. Quand j'ai mis comme ça, c'est même pas conscient, ce sont des mécanismes automatisés. J'ai mis comme ça, c'est tombé. Donc maintenant, il apprend, il est plus adroit. Comme pour la conduite, pour nous, quand on apprend à conduire, toutes ces choses-là. Ce sont des apprentissages par essai-erreur, et que le nefesh enregistre, ça, non. Ça, oui. À la limite, on n'est même pas conscient de tous les mécanismes. Donc ce qui fait que, par exemple, dans le jeu, assez vite, il devient très adroit. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il a échoué, entre guillemets, d'accord ? Personne n'est venu lui faire des reproches. Donc, il a retenu la leçon intéressante. Ça n'a pas été entravé ou court-circuité par un relationnel négatif autour de lui. Il apprend à devenir de plus en plus adroit dans le jeu. C'est ce qui met en évidence que justement dans un environnement, dans un terrain neutre, la vigilance et l'apprentissage de l'adresse se fait beaucoup, beaucoup plus vite. D'accord ? Bon, on va aller plus en détail après. Donc, quand le parent, au contraire, se tient à ses côtés, décide de coopérer pour l'aider, oui, il diffuse les messages éducatifs suivants. Voilà, maintenant, tu es plus prudent et plus expert pour la prochaine fois. Regardez ce qu'elle a dit la rabbinite. Tu as de l'expérience. C'est-à-dire qu'elle a positivé la chose. Bon, en plus, c'est sa bibliothèque, elle est gentille, hein. Alors, certains diront, oui, mais enfin, c'est pas son fils, c'est plus facile de se maîtriser. Oh, tout ça, c'est des histoires, parce que dans la prochaine histoire, ça va être à la maison de Mamache, ça va plus être chez la rabbinite, vous allez voir. Mais attachés. Donc, l'idée, c'est, tu es plus expérimenté. C'est toute cette approche saine des erreurs et des échecs, d'accord, qui nous manque beaucoup dans notre génération. On apprend des erreurs, ouais, pas de problème, on apprend de ça. C'est pas une catastrophe de briser un objet, ça aussi dans l'échelle de valeur matérielle Rouhani, c'est très très important, parce que quand un objet se brise, si on en fait toute une histoire, on peut parler jusqu'à après-demain que la matérialité c'est juste du vent, l'enfant il l'a vécu dans sa chair que c'est pas du vent. D'accord ? Donc ici, c'est échelle de valeur correcte qui est acquise également. D'accord ? Et le dernier message magnifique qui passe dans une attitude comme ça, où maman va coopérer et aider l'enfant, c'est « Je suis là pour t'aider en cas de problème. » Je te laisse pas tomber.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox www.torah-box.com trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.